France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Donald Trump a un faible pour les droits de douane. Tarif, c'est le plus beau mot de la langue anglaise, disait-il pendant la campagne électorale. Lundi dernier, en dépit du traité de libre-échange qui lie les États-Unis à ses deux voisins, il décide donc de taxer de 25% les importations en provenance du Mexique et du Canada sous prétexte d'endiguer les flux de fentanyl venus de l'un et d'asservir l'autre, juste bon selon lui, à intégrer la Fédération américaine. Ce président-là, on le sait, ne lit pas beaucoup, sauf les cours de bourse. Et voilà que Wall Street se rebiffe, les marchés effacent en quelques séances les embellies de la victoire électorale. Résultat, jeudi soir, la Maison-Blanche fait marche arrière et suspend les mesures pour un mois. Les acteurs économiques détestent l'incertitude et certains osent poser cette question : à quoi bon ce retour en force du protectionnisme alors que depuis 80 ans, le développement des échanges a accéléré l'enrichissement des grandes économies, en particulier dans le cas des États-Unis, soucieux de forger des outils multilatéraux à leur avantage. En attendant, l'annonce des mesures de rétorsion à l'encontre de l'Union européenne, conçue pour entuber son pays, selon l'expression du président américain, c'est bien l'affrontement avec la Chine qui promet d'être le plus complexe. À Pékin, le Parti communiste vient de tenir cette semaine ses deux assemblées annuelles, l'occasion de souligner par contraste le besoin de stabilité des échanges et d'afficher un objectif de croissance à 5%. C'est le moment choisi par la Maison-Blanche pour déclencher une nouvelle hausse de 10% des droits de douane sur les importations de produits chinois, s'ajoutant à une première salve du même montant le mois dernier. 5 ans après la pandémie du Covid-19, l'économie chinoise n'a pas reconstruit les fondamentaux qui lui avaient permis de devenir la deuxième du monde, mais ses échanges commerciaux avec les États-Unis restent largement excédentaires. Comment Xi Jinping va-t-il riposter ? Quel risque pour la Chine, notamment dans le secteur technologique, mais aussi pour une économie américaine dans le brouillard ? On sait le tempérament transactionnel de l'Américain, jusqu'où les consommateurs vont-ils en faire les frais ? Quel impact sur l'économie mondiale, surtout sur les marchés agricoles et donc nos propres intérêts ? Eh bien, c'est ce qu'on va comprendre ce matin grâce à Florence Pisani, chef économiste de Candriam, enseignante à l'Université Paris-Dauphine. Agathe Demaret est avec nous, elle dirige les travaux géoéconomiques du Conseil européen des relations internationales. Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, directeur associé de l'initiative Géoéconomie Géofinance de l'IFRI, et François Schimitz, qui est économiste senior, comme on dit, à l'Institut Mercator des études chinoises, et qui est aussi affilié au Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Florence Pisani, expliquez-nous pourquoi Donald Trump, dans sa très longue allocution au Congrès, mardi dernier, a promis bien évidemment une Amérique encore plus riche et encore plus grande, tout en disant « bon, mais les droits de douane, ça va quand même créer un peu de désordre ». Un peu de désordre ou beaucoup de désordre ?
Alors, ça crée déjà pas mal de désordre. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des indicateurs de confiance qui se retournent un peu. Les ménages craignent des hausses de prix, donc de l'inflation, un prélèvement sur le pouvoir d'achat. Les entreprises n'y voient plus rien, donc elles ne savent pas si elles vont continuer leur projet d'investissement. Donc, ça crée déjà des désordres, y compris aux États-Unis. Et ça crée d'autant plus de désordre que on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent avec ce levier des droits de douane et ce qu'ils cherchent à négocier pour obtenir des concessions, auquel cas, à la fin, il ne mettra pas de droits de douane, et ce qu'ils cherchent à obtenir des recettes budgétaires pour financer ces coûteuses baisses d'impôts, auquel cas, il faut des droits de douane très élevés sur beaucoup de produits et beaucoup de pays, et ce qu'ils cherchent à réindustrialiser les États-Unis. En gros, il a un instrument qui est dans ses mains, qui peut librement manipuler, Et il veut obtenir, en fait, des objectifs qui sont, au fond, assez contradictoires. Et ça, ça génère énormément d'incertitudes, en particulier mettre 25% des droits de douane sur le Mexique et le Canada, qui sont des partenaires qui sont extrêmement intégrés. Ça pénaliserait évidemment le Mexique et le Canada fortement. Les exportations du Mexique vers les États-Unis, c'est plus de 25% du PIB mexicain, c'est plus de 20% du PIB canadien. Donc ces deux pays-là souffriraient fortement, mais les producteurs américains souffriraient aussi. Et on l'a vu, c'est-à-dire dès qu'on a eu la menace de droits de douane de 25%, on a vu les constructeurs automobiles américains aller à la Maison Blanche pour expliquer que c'était pas possible et que le prix des véhicules automobiles risquerait d'augmenter aux États-Unis de plus de 3 000 $ par véhicule, que ça désorganise des chaînes de production. Et ça, évidemment, ça va complètement à l'encontre d'avoir une zone Amérique dans laquelle on sécurise les chaînes de production. Donc c'est une politique qui déstabilise. Même si on met pas de droits de douane à la fin, ça crée énormément d'incertitudes pour l'économie mondiale, bien sûr, mais aussi pour l'économie américaine.
Mais donc cette annonce de suspendre l'augmentation massive de droits de douane sur ces deux pays pour un mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire un mois ? Le Wall Street Journal, qui n'est quand même pas suspect d'être férocement anti-Trump, a tout simplement écrit que le président traite, je lis cette citation, traite l'économie nord-américaine comme son jouet personnel.
Oui, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans une économie mondiale qui, au lieu d'être dirigée par des règles, un minimum de règles, on a l'impression que le président a un instrument dans ses mains et qu'il veut jouer avec. Donc il met des sanctions, il les retire, il les remet, il les retire, mais à force de jouer avec les sanctions et de les retirer, ce qui n'a aucun sens, au cas particulier sur le Mexique et le Canada. Je rappelle que le Mexique avait pris les devants et avait même proposé à Donald Trump de taxer les importations chinoises de 25%, les importations en provenance de Chine qui rentreraient au Mexique, pour dire on sécurise une zone Amérique et on continue le libre-échange dans la zone Amérique. Ouais. Menacer en permanence pour maintenir la pression sur les pays, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux, et c'est dangereux aussi pour l'économie américaine. Et la réaction de la bourse, elle est plutôt salutaire. C'est peut-être une des forces de rappel à laquelle le président américain reste pour l'instant sensible.
François Schmitz, comme tous les ans à pareille époque, le Parti communiste chinois a tenu ses deux assemblées parlementaires. Et c'est évidemment pour les sinologues dont vous faites éminemment partie, un moment clé pour comprendre où va la politique de Xi Jinping, quand le ministre des Affaires étrangères chinois a accusé Donald Trump d'offrir un double visage, c'est-à-dire il se répand en amabilité sur Xi Jinping et en même temps il durcit de 20% en deux fois ces dernières semaines les droits de douane à l'encontre des importations chinoises aux États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire de la riposte chinoise ?
Alors, cela fait réponse à la dernière salve de M. Trump qui, en effet, passe les tarifs appliqués, les droits de douane appliqués supplémentaires aux importations en provenance de Chine et entrant aux États-Unis à 20%, après donc une première phase de 10% que vous avez mentionné. Et face à cela, on observe une relative retenue, en tout cas verbale, dans les réponses chinoises, assortie à une réponse, on va dire, fine, mais intelligente et ferme de Pékin pour essayer de faire un maximum de dégâts à M. Trump lui-même en passant par le truchement de l'économie américaine. Et pour ce faire, les Chinois ont principalement ciblé les exportations agricoles et un certain nombre d'acteurs technologiques clés américains avec des mesures qui vont être mises en place probablement de restrictions à l'accès au marché chinois mais aussi à l'accès aux intrants chinois qui dans un certain nombre de secteurs deviennent de plus en plus vitaux et parfois même sans alternatif du fait de la montée en puissance de l'appareil techno-industriel chinois. Il faut bien inscrire cette réponse dans une dynamique de l'économie chinoise que l'on observe depuis 2-3 ans et qui est relativement sans précédent, après quasiment 3 décennies de croissance absolument phénoménale, qui est une grande fragilité de l'économie chinoise. Pour la première fois depuis quasiment 40 ans, en part de PIB mondial, la Chine a décru sur les 3 dernières années assez sensiblement, en partie du fait d'un abaissement de la valeur de la monnaie chinoise et donc du taux de change chinois, mais surtout aussi du fait d'une pression déflationniste très importante qui existe en Chine, avec donc la deuxième économie mondiale, la première économie industrielle mondiale, qui depuis 2 ans, contrairement au reste de la planète, connaît une déflation, en particulier pour sa production industrielle, avec toute la discussion qui existe autour de l'enjeu des surcapacités. Et face à cela, les Chinois sont donc dans une position de relative difficulté vis-à-vis des pressions mises par Washington, ce que M. Trump sait probablement très bien, et sont donc cantonnés pour le moment à une réaction qui cherche relativement à tempérer les éventuels impacts sur leur économie, tout en démontrant une grande fermeté. Et d'ailleurs, à ce titre, ça démontre l'évolution de la Chine sous Xi Jinping durant ces 10 dernières années, puisque la forme de la réponse est, on va dire, beaucoup plus fine, mais aussi beaucoup plus réactive que lors du premier mandat Trump, où il semblait que les Chinois, et que Pékin en particulier, réagissaient en répliquant un peu bêtement ce que les Américains faisaient en matière de droits de douane assez largement horizontaux, et avec souvent un peu de retard, puisqu'ils semblaient relativement surpris par les mesures américaines. Là, si on peut résumer, il y a certes des faiblesses côté chinois, mais en tout cas très clairement une plus grande préparation et une plus grande volonté de démontrer une très grande fermeté face à ce que les autorités de Pékin, mais hélas d'autres autorités de par le monde, peuvent ressentir comme une forme de bullying, donc de comportement d'enfants violents et martyrisant un peu ses petits partenaires dans la cour de récréation, qui est donc inacceptable pour Pékin.
Ce qui est frappant, François, c'est que Pékin prend soin de cibler des États qui sont aux mains du Parti républicain américain, et notamment des États agricoles. Et on voit le maïs, le soja, le porc, qui sont des exportations américaines majeures, déjà souffrir sur les marchés mondiaux.
Tout à fait, tout à fait. Et il y a en cela, on va dire, un double bénéfice pour Pékin. Et donc c'est pour cela que ces secteurs étaient très largement anticipés par les analystes dans la réponse de Pékin. Tout d'abord, comme vous l'avez indiqué, ce sont des secteurs, y compris d'ailleurs pour les matières premières énergétiques, charbon et potentiellement gaz, qui proviennent ou qui ont la majorité de leur activité économique dans des États plutôt républicains aux États-Unis, et qui donc maximisent l'impact politique sur Trump et sur le Congrès, qui bien évidemment va mettre la pression sur la Maison-Blanche pour essayer un peu de trouver un terrain d'entente avec Pékin. Et dans le même temps, vous avez relativement une très faible impact sur l'économie chinoise. Parce que ce qui se passe en pratique, c'est que ce sont des secteurs qu'on appelle commodities, donc où en effet les produits sont assez standards et les marchés internationaux assez liquides et fluides. Et donc, concrètement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que vous avez une redirection, une réorientation de la demande chinoise vers d'autres fournisseurs sans vraiment un surcoût trop important ou très important pour l'économie chinoise dans son ensemble. Et donc vous avez un peu ce double bénéfice qui vient probablement, en effet, fortement percuter les certitudes et notamment la base politique de Trump. Il n'existe pas, ceci étant dit, de consensus dans la science économique sur la réalité de ce mécanisme impact local, donc vote oui, potentiellement contre Trump, avec des papiers qui trouve soit un impact sensible mais relativement faible, soit peut-être parfois pas d'impact du tout.
Agathe Demaret, ce qui a surpris, enfin on va de surprise en surprise, c'est que hier, sur son réseau social qui s'appelle Truth Social, le président américain a tout à coup affirmé qu'il envisageait des sanctions et des droits de douane à grande échelle, a-t-il écrit, contre la Russie. Et puis, quelques heures plus tard, Il a dit, ben non, finalement, c'est Poutine qui a les cartes en main, et puis il peut être très généreux. Donc là aussi, on voit, Agathe, à quel point l'arme des sanctions et des droits de douane est maniée avec une relative légèreté.
Oui, tout à fait, oui. Je crois que la question de l'imprévisibilité des actions de Trump est clé dans cette situation, puisque cette imprévisibilité, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les entreprises ne peuvent pas s'adapter. S'adapter dans des circonstances où on ne sait absolument pas ce qui va se passer, c'est totalement impossible. Et par ailleurs, est-ce que le jeu en vaut la chandelle de chercher à s'adapter pour 4 ans, puisque le mandat de Trump, ce sera 4 ans, et des investissements, cela prend beaucoup de temps, cela prend beaucoup d'argent, donc est-ce que il y a en fait un bénéfice à tenter de s'adapter à Trump ? Je crois que du côté en fait de la théorie économique, ce qui est intéressant, si on se penche sur la théorie économique, c'est qu'il n'y a que 3 cas où les tarifs douaniers peuvent être, peut-être, bénéfiques à une économie. Le premier cas, c'est la question de la défense nationale, c'est-à-dire tout simplement de produire des produits critiques, des produits militaires, pour la sécurité nationale. Le deuxième cas, c'est la protection d'industries naissantes, et ce n'est absolument pas ce qui est essayé, ce n'est absolument pas la stratégie de Trump aujourd'hui. Et le troisième cas, c'est d'essayer de faire émerger des champions nationaux. Et là aussi, en fait, ce n'est pas du tout la stratégie qui est poursuivie par Trump. Les droits de douane de Trump sont bien des droits de douane sur l'ensemble des domaines, sur l'ensemble des importations. Et en fait, quand on regarde ce que cela veut dire, cela va avoir un impact à la fois sur les importations américaines et sur les exportations américaines. Du côté des exportations, les droits de douane, on le sait, vont entraîner une appréciation du dollar américain et cela va pénaliser les entreprises exportatrices. Et pour ce qui concerne les entreprises importatrices, eh bien, elles vont payer plus cher, tout simplement, leurs importations, puisque les droits de douane sont bien réglés par les importateurs américains. Et ce qu'il va se passer, et on a beaucoup de données à ce sujet depuis le premier mandat de Trump, depuis les premières guerres commerciales, et que dans l'immense majorité des cas, elles vont passer ses surcoûts aux consommateurs. Et je crois qu'il y a 2 statistiques qui sont particulièrement intéressantes dans ce domaine. On sait que les droits de douane qui ont été imposés par Trump dans la seule année 2018 ont coûté 7,2 milliards de dollars à l'économie américaine, même en tenant compte des recettes fiscales légèrement augmentées et des gains de certains secteurs d'activité. Je pense notamment, par exemple, à l'acier. Et la deuxième statistique qui me semble être particulièrement intéressante à garder en tête, c'est que des modélisations économiques montrent que le ménage médian américain pourrait perdre 1 200 dollars par an suite aux récentes annonces de Trump pour ce qui concerne les droits de douane seulement sur la Chine, le Mexique et le Canada. 1 200 dollars par an, donc 100 dollars par mois pour le ménage médian, mais une perte probablement encore plus importante pour les ménages les plus modestes qui consomment proportionnellement plus de biens que de services. Donc c'est vraiment, en fait, se tirer une balle dans le pied pour l'économie américaine, et les dégâts vont être importants, potentiellement, pour l'économie américaine.
Ce qui surprend, Agathe, c'est qu'on voit dans cette administration, dans ce gouvernement Trump, il y a toujours eu des milliardaires au pouvoir aux États-Unis, mais là, c'est décidément le plus grand nombre est des milliardaires particulièrement riches. Mais donc, on se dit que ce sont des gens qui connaissent la réalité. Or, le secrétaire d'État au commerce, M. Lutnick, a expliqué benoîtement hier que c'était pas grave d'avoir des droits de douane élevés parce que ça permettrait de produire aux États-Unis, même si les salaires sont plus élevés. Et quand le journaliste lui disait « Oui, mais donc, ça veut dire que les prix vont monter, que l'inflation va augmenter. » Et là, Lutnick a répondu « Mais c'est pas grave, si les salariés sont trop chers, on mettra des robots. » Donc, à qui a-t-on affaire ?
Alors, je crois que la réponse est dans la question. Il y a une autre anecdote dans ce domaine qui est qu'un officiel américain avait déclaré dans une interview récente que cela ne posait aucun problème à l'administration Trump que d'autres monnaies soient fortes si le dollar était lui-même fort, ce qui n'a absolument aucun sens puisque le dollar est fort. S'il s'apprécie, cela veut dire qu'une autre monnaie en face se déprécie. Et effectivement, on peut s'interroger sur le degré de connaissance économique de l'administration actuelle, peut-être un manque d'intérêt pour les détails et les implications de certaines politiques, peut-être également une certaine volonté de faire plaisir à une partie de l'électorat américain avec des mesures fortes, mais cela pose effectivement la question, et on a vu des grandes purges au sein de l'administration américaine, on a vu tout un tas en fait de ministères fermés et être dans une situation très difficile. Donc il y a la question de l'expertise. Et je crois aussi qu'une chose à garder en tête, c'est que les personnes qui acceptent aujourd'hui de faire partie de l'administration Trump 2 sont des personnes qui croient, dur comme fer, aux politiques menées par le président Trump. C'est-à-dire que lors du premier mandat de Trump, il y avait peut-être des personnes, des républicains, qui ont essayé. On a vu ces personnes s'épuiser. On a vu beaucoup de turnover au sein de la première administration. Les personnes qui acceptent de travailler pour Trump aujourd'hui dans son entourage proches sont des personnes qui sont persuadées du bien fondé des politiques menées par le président américain, non seulement dans le domaine économique, mais également dans le domaine social. Et je regardais hier des données qui ont été publiées par le Financial Times. Aujourd'hui, les visions du monde et les valeurs de la droite MAGA américaine, c'est-à-dire proche de Trump, semblent plus proches des visions du monde des partis au pouvoir en Russie, en Turquie et en Chine, que des visions du monde dans les autres démocraties occidentales.
Sébastien Jean, est-ce que cela veut dire que nous sommes en train de vivre véritablement un changement d'époque sur le plan géoéconomique aussi, avec 80 ans d'une politique économique et financière américaine en quelque sorte effacée ou pulvérisée en quelques semaines ?
Définitivement, on est face à un changement d'époque, effectivement. Je pense que pour en prendre la mesure, il faut déjà souligner que ce système, en fait, multilatéral, est un système qui tâche d'encadrer les relations entre États souverains par des règles. Or, par définition, contraindre, amener un État souverain à respecter des règles, c'est quelque chose de difficile parce qu'on ne peut pas le contraindre puisqu'il est souverain. Donc il y a un équilibre fragile et qui dépend éminemment des relations des pays entre eux et puis d'un leader ou de plusieurs leaders qui organisent les choses et qui donnent un exemple. Et là aujourd'hui, au fond, cet ordre multilatéral, il est pulvérisé par les États-Unis et j'ajouterais aussi par la Chine d'une façon assez différente. Mais donc, il est complètement déstabilisé. Et là, les annonces qu'a fait Donald Trump sur sa politique commerciale, de différentes façons, j'ai été marqué en particulier par celle sur ce qu'il a appelé le commerce réciproque, c'est vraiment, de fait, érigé en principe de ne plus du tout tenir compte des contraintes qui étaient dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, oui, on a une déstructuration, finalement le leader de ce système qui en sort. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va en sortir, qu'il va exploser ? C'est pas forcément le cas, hein, parce que je crois que les autres pays voient quand même avec beaucoup d'appréhension l'air qui s'ouvre. Parce que s'il n'y a plus de règles, ça veut dire qu'on tombe dans le rapport de force. Alors quand on est les États-Unis ou même la Chine d'ailleurs, on peut penser qu'on va arriver à défendre ses intérêts efficacement dans ce contexte-là. Mais les autres pays, je pense, ne partagent pas cette vision et beaucoup d'entre eux sont attachés à essayer de retenir un cadre de règles. Et j'en veux pour preuve, pour prendre juste un seul exemple, au premier mandat de Trump, il y avait une négociation qui avait été initiée par les États-Unis avec leur partenaire du Pacifique, on appelle ça le partenariat transpacifique, et Trump a dit on en sort. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Les autres pays qui avaient négocié avec eux, les 11 autres pays, si ma mémoire est bonne, ont finalisé l'accord sous le leadership du Japon. Ils ont finalisé sans les États-Unis parce qu'ils regrettaient beaucoup le départ des États-Unis. Ils espéraient d'ailleurs qu'ils reviennent, mais ils préféraient avoir ce cadre-là plutôt que rien et que la situation est créée.
Mais quand cette administration à Washington parle d'un principe de réciprocité dans les tarifs, en fait, ça veut dire que, d'une certaine manière, les autres pays, eux aussi, ont la main. Et il y a presque un sous-traitement de la politique tarifaire.
Oui, on joue un peu avec les mots parce qu'en fait, l'un des principes aussi d'un ordre international fondé sur des règles, c'est qu'on se met d'accord sur les règles. Et là, les États-Unis réinterprètent tout. Donc eux, quand ils disent réciprocité, en fait, ils parlent d'une pure symétrie. Il faudrait que, à chaque fois qu'ils ont des conditions d'importation d'un produit, le partenaire est exactement le même. Mais en fait, ça n'est pas praticable à grande échelle parce que ça veut dire finalement qu'il faudrait que sur chaque produit, tous les pays du monde pratiquent la même politique. Or, ils n'ont pas les mêmes contraintes, ils n'ont pas le même contexte politique. Donc, ce n'est pas praticable. Le principe de réciprocité, il existe dans l'ordre commercial international, effectivement. Depuis le début, c'en est même un fondement, mais c'est une réciprocité dans les engagements. C'est-à-dire que, au fond, l'évolution en particulier de ce système, enfin, et dès le départ, même, elle repose sur le fait que les pays prennent des engagements les uns par rapport aux autres. Le principe de réciprocité, il stipule que ces engagements doivent être équilibrés. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré ? Ça ne veut pas dire exactement symétrique, ça veut dire considéré par toutes les parties prenantes comme équilibré dans leurs conséquences commerciales. Donc, c'est différent de la pure symétrie que Trump voudrait brandir aujourd'hui, surtout qu'il l'a brandi avec une libre interprétation complète de l'administration américaine. Maintenant, il met le doigt sur un point sensible et sur une réalité, c'est que avec ce système où on définit la symétrie seulement sur les engagements, en fait, sur l'évolution, on a une sorte de problème d'héritage, c'est-à-dire ceux qui sont partis avec un niveau beaucoup plus élevé, ou bien qui sont partis avec des privilèges liés à leur statut de pays relativement pauvre, on a du mal à s'en défaire le long du chemin, j'allais dire. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, de fait, les droits de douane appliqués et pour lesquels les États-Unis sont engagés, d'ailleurs, dans le cadre de l'OMC, sont en moyenne plus faibles que ceux appliqués par la Chine et a fortiori d'autres pays. Donc, pour donner des ordres de grandeur, si vous voulez, en tout cas pour les droits appliqués actuellement, sans les droits extraordinaires ajoutés par l'administration Trump, c'est de l'ordre de 3,5 pour les États-Unis, mais c'est 7,5 pour la Chine, 11 pour le Brésil, 17 pour l'Inde. Donc, il y a, de fait, il y a des asymétries, mais c'est un dévoiement, c'est jouer avec les mots que de présenter ces mesures comme des mesures de réciprocité, je crois.
François Schmitz, en fait, ce que Donald Trump ne supporte pas, s'agissant en particulier de la Chine, et on en reste pour le moment aux seules considérations commerciales, c'est que la Chine entretient un excédent très important vis-à-vis du marché américain, et les exportations sont d'autant plus utiles à l'économie chinoise que son propre marché intérieur ne redémarre pas à proportion de l'époque avant Covid.
La vision qu'a déployée Trump, alors toujours délicat de faire l'exégèse d'un personnage sémillant, on va dire, et diverse parfois, et incohérent dans le temps, c'est une vision vraiment mercantiliste traditionnelle. Donc, il voit l'exportation de son pays comme une bonne chose, l'importation comme une mauvaise chose, et tout décalage entre les deux comme la marque d'une grande faiblesse. Là où l'analyse de M. Trump est particulièrement unique, on va dire, c'est son obsession sur les déséquilibres bilatéraux. Le mercantilisme est plutôt une pensée extrêmement marginale dans la science économique, mais au moins, en général, il s'intéressait aux déséquilibres globaux. Ce qui est particulièrement étrange, c'est que chez Trump, il y a cette obsession du bilatéral. Et donc, la Chine, à cet égard, principal poste de déséquilibre des comptes commerciaux américains avec l'Union européenne, fait figure donc d'obsession de M. Trump de longue date. Là où, dans son second mandat, il y a quelque chose qui surprend un peu plus, c'est que pour le moment, cette obsession chinoise liée au déficit bilatéral a assez largement disparu. Et c'est quelque chose qui interroge beaucoup les analystes, ou en tout cas un certain nombre d'analystes, puisque cela était un élément constitutif de son récit politique jusque-là. Or, cet élément constitutif a largement disparu. Même les droits de douane récents, dont on a parlé, les +10, +10, donc les +20% de droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance de Chine, ont été pris au titre de l'absence d'efforts chinois dans la lutte contre les importations de drogue, drogue illégale et de fentanyl en particulier aux États-Unis. Là où, lors de son premier mandat, il y avait plus clairement un ciblage de ce déséquilibre. Là où cela crée particulièrement un risque pour nous, Européens, c'est que lors du premier mandat de Trump, Pékin et Washington avaient su trouver un terrain d'entente, justement du fait de la relative faiblesse de cette ligne d'attaque, on va dire, trumpienne. Les Chinois s'étaient engagés à importer beaucoup plus de produits américains, notamment des produits des matières premières, ce qui avait assez largement semblé convenir à monsieur Trump. La mise en œuvre ensuite de cet accord avait été défaillant puisqu'il y avait eu la période du Covid et puis le départ ensuite de monsieur Trump. Mais ce que l'on peut craindre, nous, Européens, c'est un accord de type similaire qui serait relativement peu coûteux pour Pékin, puisqu'il s'agirait là de simplement réorienter ses demandes en produits agricoles ou en produits énergétiques vers les États-Unis, et qui pourrait se faire assez largement, en effet, sur le dos des intérêts américains. Maintenant, côté Pékin, si évidemment il y a un énorme défi représenté par la pression américaine en cette période de difficultés économiques, deux leviers quand même très importants restent encore disponibles pour y répondre. Le premier, et on l'a vu à l'œuvre déjà durant les deux assemblées, et plus généralement durant le déploiement assez lent de ce virage vers le soutien à son économie domestique opéré depuis septembre de l'année dernière, qui est l'activation d'une politique assez claire de soutien à son économie domestique, à la fois avec le levier budgétaire et avec le levier monétaire, et donc probablement un soutien très important à l'économie chinoise qui va être mis en place par Pékin durant l'année 2025 pour atteindre cet objectif de stabilisation de la croissance réelle autour de 5%, qui était déjà l'objectif et le chiffre obtenu en 2024. L'autre levier, et on l'a vu à l'œuvre principalement en décembre et janvier, c'est celui de la dévaluation, de la dépréciation de la monnaie chinoise qui, si elle n'est pas formellement administrée, répond assez parfaitement au désir de Pékin avec des mécanismes qui ont été fortement opacifiés sous Xi Jinping pour justement avoir une espèce de plausible deniability, en très mauvais français, mais de capacité à pouvoir nier l'interventionnisme. Trump avait durant son premier mandat très fortement mis l'accent sur les doutes, les interrogations qui existaient autour de la sous-évaluation sciemment orchestrée par Pékin de sa monnaie. Cette rhétorique a là aussi, pour le moment, assez largement disparu des déclarations de la Maison-Blanche. Quand on regarde les mesures qui sont prises, systématiquement, ces mesures ouvrent la possibilité de sanctions et de droits de douane vis-à-vis de Pékin au titre de cette sous-évaluation du change, mais sans que cela soit, pour le moment en tout cas, portée et mise en avant par Trump, ce qui pourrait donner lieu à une correction par Pékin de la, ou en tout cas à une accueil de la pression américaine par une dépréciation du change qui viendrait donc annuler les éventuels droits de douane qu'on a pu observer. À ce titre d'ailleurs, le fait que le renminbi se soit déprécié d'environ 20-25% vis-à-vis de la monnaie américaine depuis l'élection de Trump, sa victoire lors des élections jusqu'à aujourd'hui, n'est probablement pas complètement anodin et reflète probablement l'activation de ce levier par Pékin.
François, est-ce qu'il y a aussi, en fait, une opportunité politique, disons de type classique, pour le régime chinois, disant à sa propre population, vous voyez, les Américains, encore une fois, nous font du mal.
Tout à fait. Alors, ça demande un tout petit cadrage sur qu'est-ce que l'économie politique en Chine. Il faut savoir qu'en Chine, dans le système politique chinois, il y a vraiment cette centralité d'épargner toute forme de tort fait aux dignitaires, principalement à la personne de Xi Jinping, pour justement garantir la stabilité politique du régime. Et en général, au niveau national, cela prend la forme de l'utilisation des strates administratives et politiques d'une Chine qui est quand même très décentralisée, il faut le rappeler, pour justement porter le blâme d'éventuelles difficultés économiques ou difficultés sociales que peuvent rencontrer les Chinois. Et là, en l'occurrence, Trump fournit un peu sur un plateau à M. Xi Jinping une excuse ou un quelqu'un à blâmer pour les difficultés très réelles que connaissent les Chinois depuis maintenant quelques temps. Est-ce que cela sera suffisant et est-ce que cela fonctionnera auprès de la population chinoise du fait de la très grande opacité et de la autour de l'information et de la circulation de l'information en Chine, il sera probablement dur d'en estimer exactement l'impact, mais il est certain que le régime va activer à plein cette opportunité de détourner l'origine des problèmes de l'économie chinoise vers la Maison Blanche et donc de faire de la Maison Blanche le responsable de tous les maux. En plus de cela, cela permet de souder l'ensemble de la nation chinoise derrière son parti-État pour justement accomplir les grands efforts de transformation que Xi Jinping ambitionne pour son économie depuis maintenant quelques années et qui justement a chopé sur un manque d'enthousiasme des différentes parties prenantes de l'économie chinoise pour mettre en pour opérer cette mutation de l'économie chinoise vers cette économie sociale de marché moderne que le parti maintenant appelle de ses voeux depuis officiellement 8 ans.
Florence Pisani, il est temps de retourner à ce qui se passe aux États-Unis et en particulier le risque assez évident que le consommateur américain, à commencer par les plus modestes, se fournissant en marchandises à bas prix la plupart du temps chinoises, quel peut être l'impact sur le niveau de vie des Américains ?
Ah, il est élevé. Hein. Si Donald Trump fait ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne électorale, c'est-à-dire mettre 60% de droits de douane sur la Chine et 10% sur l'ensemble du reste du monde, on va avoir 2 points hein, d'inflation en plus aux États-Unis. Et ce qu'on sait, c'est que c'est surtout les ménages à bas revenus hein, qui vont souffrir le plus. C'est ceux qui dépendent des biens de première nécessité, des largement, hein, qui dépensent ce qu'ils gagnent, mais largement en produits importés, et notamment importés à bas prix de Chine. Et donc, c'est les ménages des quintiles, hein, les plus bas de revenus, qui vont être les plus affectés. Les calculs qui avaient été faits, c'est qu'il y a 1 500, 2 000 $ hein, de prélèvement sur ces ménages. Et ça, c'est évidemment hein, un effet très négatif pour la consommation américaine. Il faut rappeler que c'est les ménages du bas de l'échelle des revenus qui dépensent ce qu'ils gagnent. Donc ça va être les plus affectés. Donc ça c'est un premier point. Je suis pas sûr, d'ailleurs, pour revenir juste à la Chine, que Donald Trump souhaite négocier avec la Chine. On a un agenda qui est un agenda très conservateur. Il faut rappeler que beaucoup des choses qui sont annoncées par Donald Trump, même s'il est imprévisible, qu'il met des droits de douane, qu'il les retire, mais beaucoup de ce qu'il a annoncé était hein, dans le Mandate for Leadership de 2025, l'agenda conservateur que Donald Trump, dont Donald Trump s'était détaché pendant la campagne, parce que il avait peur de froisser hein, une partie de son électorat. Donc il s'était détaché de cet agenda, mais cet agenda, il est mis en marche. Et dans cet agenda, la Chine hein, est ciblée. Et moi, je suis pas sûr que Donald Trump souhaite négocier vraiment avec la Chine. Il cherche à affaiblir la Chine à un moment où la Chine est soumise en interne à des pressions déflationnistes. Elle a un problème d'emploi pour les jeunes diplômés. Hein, les plus diplômés ne trouvent pas aujourd'hui d'emploi ou difficilement en Chine. Elle a un problème d'emploi de ses migrants, les migrants qui étaient employés dans l'industrie manufacturière ou la construction dans des emplois relativement peu qualifiés, ont perdu ces emplois. Hein, et ça, c'est une pression en permanence déflationniste sur l'économie chinoise. Et si vous ajoutez à ça des droits de douane qui sont extrêmement élevés sur la Chine, il va falloir effectivement que la Chine stimule sa demande intérieure, mais il va falloir qu'elle le fasse beaucoup plus que ce qu'elle a annoncé jusqu'à présent. Elle a annoncé jusqu'à présent des mesurettes qui sont de l'ordre de 0,2-0,3 points de PIB. Le choc sur l'économie chinoise dont on parle aujourd'hui, c'est 1,5 à 2 points de PIB, hein, si Donald Trump va aussi loin qu'il le dit, sur les droits de douane vis-à-vis de la Chine.
Mais quel choc, Florence, sur, encore une fois, les couches sociales aux États-Unis, quand on voit qu'il y a aussi des coupes très significatives dans les budgets sociaux. La conjugaison, encore une fois, avec un risque renouvelé d'inflation qui n'a pas total, qui reste, je crois, autour de 2%, mais encore une fois, avec une politique de droits de douane alourdie, cela va, encore une fois, impacter les gens les plus fragiles.
Oui, oui, ça va augmenter fortement la pauvreté. Quand on regarde ce qu'il y a dans le projet de budget qui est passé à la Chambre, mais qui n'est pas encore voté, il y a des coupes d'aide alimentaire et de la nutrition pour les enfants. On veut couper 330 milliards sur un programme qui en fait 650 hein, sur les 10 prochaines années. Donc on coupe la moitié du programme d'aide alimentaire et d'aide aux étudiants. On coupe les bons alimentaires. Hein, les programmes de bons alimentaires. Il est question de faire des coupes dans Medicaid. Et là, il y a des débats, y compris au sein des Républicains, parce que toucher au programme Medicaid, c'est un programme qui bénéficie aujourd'hui hein, à plus de 70 millions d'Américains, dont une large partie des électeurs qui ont voté hein, pour Donald Trump. Donc revenir sur Medicaid, ce serait quelque chose qui serait assez dommageable, y compris pour les soutiens, hein, les grands soutiens de Donald Trump dans un certain nombre d'États républicains. Mais ce qui est envisagé aujourd'hui au Congrès, c'est un programme de coupes budgétaires tous azimuts qui porte largement sur les plus défavorisés. Il y a en gros 2000 milliards hein, de baisses de dépenses sur les 10 prochaines années qui sont annoncées dans le programme qui a été voté à la Chambre. Et sur ces 2000 milliards sur les 10 prochaines années, c'est essentiellement des programmes pour les plus défavorisés qui sont coupés.
Et avec une baisse évidemment annoncée des impôts pour les revenus les plus élevés. Sébastien Jean, il y a un moment où le rôle du dollar est directement concerné. On voit d'ailleurs les réactions inquiètes de la Banque Centrale Européenne, du Fonds Monétaire International, mais aussi et surtout, si j'ose dire, de la Banque Centrale Américaine.
En effet, et d'ailleurs c'est un élément assez nouveau par rapport au premier mandat. Je crois que la première raison pour laquelle le dollar est concerné, c'est que quand on parle de droits de douane aussi élevés que ceux que Trump est en train de déployer, hein, il faut rappeler que, je vous fais juste une petite parenthèse, on fait le parallèle avec les années 30, mais là on se dirige vers une protection qui en moyenne serait beaucoup plus importante que celle des années 30, hein, la crise protection, enfin, des années 30 et cette vague protectionniste. Donc on est à un niveau de protection qui est si élevé que ça devient une question macroéconomique. Ça c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que même en termes de stratégie générale, le volet monétaire est maintenant pleinement intégré, en tout cas dans ce que disent et écrivent certains des conseillers de Trump. C'était le cas déjà un peu de Robert Lighthizer précédemment et aujourd'hui en particulier du secrétaire au Trésor Scott Bessent et du chef des conseillers économiques Stéphane Miran. Et ce qu'ils disent essentiellement, c'est le dollar est la devise clé du système monétaire international et en fait pour nous c'est un fardeau. Parce que, étant donné que c'est une devise clé, tout le monde veut en acheter avant d'avoir. Nous, on pourrait se dire quand même que c'est le privilège exorbitant, selon le fameux terme de Giscard, il y a maintenant 60 ans. Mais eux disent, ben non, en fait, ça pousse à un dollar trop cher. Et donc, c'est ça qui entretient structurellement nos déficits. Le problème derrière, et ce qui, je crois, met tout le monde mal à l'aise, c'est que, on sent aussi, là encore, comme ça a été précisé tout à l'heure sur les aspects commerciaux, une sorte de non-choix. C'est-à-dire, il voudrait vraiment tout à la fois, y compris des choses contradictoires. Stéphane Miran, par exemple, donc ce conseiller économique en chef, il dit, bah, voilà, la logique de ces mesures de protection, c'est qu'en fait, on arrive quand même à les faire payer par les partenaires parce que on obtient des gains des termes de l'échange. Ce que ça veut dire, des gains de termes de l'échange, ça veut dire on leur vend plus cher parce qu'ils sont obligés d'évaluer, de déprécier leur monnaie en face. Donc ça, au fond, c'est une justification des politiques tarifaires en disant elles sont bénéfiques parce que on arrive avec un dollar fort finalement à faire payer les autres. Mais dans le même temps, il veut aussi utiliser une dépréciation concertée du dollar pour faciliter la réindustrialisation. Avec derrière des propositions qui sont mises sur la table, on ne sait pas exactement à quel degré de sérieux il faut les prendre, en disant on va forcer nos partenaires à se mettre autour de la table pour faire un accord, un nouvel accord du Plaza. Hein, le cas du Plaza en 1985, il avait organisé un accord autour de la baisse de la valeur du dollar. Et là, il voudrait faire ça avec différents instruments, y compris des instruments réglementaires ou de taxation sur les bons du Trésor américain. Donc on a l'impression aussi qu'en plus, s'il y a une volonté même de bricoler au cœur du système monétaire international, ce qui potentiellement est inquiétant, évidemment.
Est-ce que, Sébastien, l'importance prêtée par Donald Trump au rôle des crypto-monnaies s'inscrit dans la même stratégie? Alors,
C'est une bonne question parce que cette importance, elle est troublante, hein, et elle tient beaucoup aussi apparemment de la connivence avec un certain nombre de milieux. Elle tient beaucoup aussi de ces influences contradictoires avec dans l'entourage de Trump, à la fois des néoconservateurs comme on a pu les voir au premier mandat, mais aussi aujourd'hui des libertariens. Alors, comment est-ce que les cryptos peuvent s'articuler avec ces objectifs, ces stratégies sur le plan monétaire? Pour moi, c'est pas évident parce que tout ce qui est crypto-actif, si le dollar perdait au fond son statut, ou en tout cas si son statut de devise clé s'affaiblissait, il y aurait une recherche d'actifs de réserve, d'actifs sûrs alternatifs, et peut-être que certains pourraient voir dans des modalités particulières de crypto des supports pour le faire. Mais si on veut justement maintenir le dollar comme ancre du système monétaire international, ce qui fait partie des objectifs contradictoires affichés par ses conseillers et visiblement par lui aussi, parce qu'il il l'a dit clairement, à ce moment-là, je ne vois pas bien l'articulation entre les deux.
François Gimitz, il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, mais on ne peut pas l'éviter s'agissant des rapports entre la Chine et les États-Unis, c'est Elon Musk. Elon Musk, dont les activités automobiles avec Tesla reposent très très largement sur le soutien du régime chinois et aussi la demande du marché chinois. Est-ce que Elon Musk est actif et est-ce qu'il est, lui qui parle de tellement de choses, est-ce qu'il s'exprime sur les relations avec Pékin?
Alors en effet, c'est probablement une des faiblesses ou en tout cas une des grandes incertitudes dans l'éventuelle stratégie Chine de la nouvelle Maison-Blanche. C'est ce rôle potentiel qu'aurait M. Musk et notamment avec cette exposition très importante en matière économique et une forme de bonne entente et de bonne relation sur un plan plus politique et peut-être même philosophique pour Musk vis-à-vis de ce qu'est le régime de Pékin, dont M. Musk a par le passé loué les mérites en termes de productivité, d'ordre, etc. Ce qui est surprenant jusque-là, c'est que Musk, depuis l'arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche, semble être interdit de parler de la Chine. Lui, qui était assez disserte et qui l'est toujours sur plein de sujets, n'a pas spécifiquement effectué de sortie ou de saillie sur la Chine ces derniers temps, ce qui peut prêter en effet à l'analyse qu'il a reçue une fin de non-communiqué sur ce sujet.
Et plus généralement, ce qui est intéressant aussi, François, pardon, je vous interromps, oui. C'est que avant la mise en place de la nouvelle équipe, il y avait un consensus, d'ailleurs bipartisan, sur une hostilité affichée, verbalisée à l'encontre de la Chine. Et là, tous ces faucons anti-chinois, à commencer par le secrétaire d'État Marco Rubio, on ne les entend pas.
Et alors, c'était exactement le point sur lequel j'allais venir, c'est que nous avons une incertitude fondamentale sur quelle est la réalité de la stratégie Chine de M. Trump. Au sein du parti républicain, au sein de sa base politique, il y a eu très clairement une faction très importante, peut-être même ultra-majoritaire, qui fait de la Chine le grand adversaire stratégique des États-Unis pour le 21e siècle, face auquel Washington doit structurer l'ensemble de sa stratégie géopolitique. Et après les premières nominations, nous avons pu penser qu'en effet, cette faction-là, si on peut parler ainsi, avait la haute main sur les affaires économiques internationales et que donc on allait voir une géoéconomie américaine intégralement consacrée à cette grande lutte géostratégique. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est la disparition totale de la Chine dans le récit trumpien. depuis son arrivée au pouvoir. Alors, est-ce que cela procède d'une dynamique tactique pour justement ne pas trop perdre sa relation bilatérale avec Xi Jinping et maintenir cet éventuel lien pour pouvoir, après-demain, aller vers un accord ? Est-ce que, de manière plus substantielle, cela révèle une priorité au sein de la Maison-Blanche qui va à plutôt cibler les partenaires, on va dire, traditionnellement alliés que sont les démocraties libérales et les pays de l'OCDE, ce qu'on a pu observer depuis quelques semaines. C'est là l'une des grandes incertitudes. Il y en a une deuxième qui procède aussi un peu de la sphère Musk, on va dire, qui est l'approche, on a beaucoup parlé jusque-là des droits de douane et de la guerre commerciale, et on a assez largement ignoré la guerre technologique. Or, cela avait été le grand levier activé par l'administration Biden pour justement opérer et essayer de gagner cette grande compétition géoéconomique internationale face à l'adversaire chinois. Jusque-là, les mesures mises en place par Biden ont toutes été maintenues. Certains signaux semblent indiquer qu'il va même y avoir un renforcement de cette approche. Mais pour le moment, là aussi, M. Trump ne pipe mot. Et donc engendre une grande incertitude quant à l'endossement, enfin quant à la capacité du président américain de réellement faire sien cette approche technologique qui, dans les faits, veut dire moins de business pour les entreprises américaines et qui donc pourrait aller à l'encontre de certains de ces ressorts personnels de businessman. Et là-dessus, une grande incertitude existe. Et donc cela vous donne, au-delà de l'approche guerre commerciale, une relation bilatérale qui est extrêmement incertaine et qui explique pour partie la réponse relativement ferme mais mesurée des Chinois qui veulent se ménager toutes les possibilités, y compris celle de l'éventualité d'un deal dans quelques temps, une fois que les discussions auront sérieusement commencé entre les deux parties.
Agathe de Marais, on approche vers la conclusion extrêmement provisoire de cette discussion. Est-ce que on peut voir, et je reviens à ce moment troublant hier, quand Donald Trump, sur son réseau social, menace la Russie de droits de douane et de sanctions pour, 2 ans après, dire « mais non, Poutine, avec lui, on va pouvoir faire un deal ». On voit aussi le souci du président américain de dire à quel point Xi Jinping est un personnage intéressant et même admirable. Est-ce que cela veut dire qu'il y a cette fascination pour le modèle qu'il faut bien appeler dictatorial, une fascination, disons, de dimension idéologique qui accompagne paradoxalement, de la part des États-Unis, une certaine automutilation, qu'il s'agisse des budgets de USAID, c'est-à-dire tout le soft power américain qui part en fumée.
Alors, je crois effectivement qu'on peut s'interroger sur une certaine fascination de la part de Trump pour un modèle fondé sur des hommes forts. Je crois que sur la Russie, en fait, les déclarations de Trump ont été intéressantes. Également à nouveau parce que on en vient à se dire, c'est très imprévisible, on ne sait pas ce qu'il cherche. Est-ce qu'il cherche même quelque chose? Le sait-il lui-même? Je n'en suis pas personnellement sûre. Et je crois qu'en fait, la question de ses déclarations d'hier concernant la Russie, où il a menacé Moscou de sanctions et de droits de douane, alors bon, des droits de douane sur les importations russes, ça ne ferait pas grand mal ni aux États-Unis ni à la Russie, puisqu'en fait, les États-Unis et la Russie sont des partenaires commerciaux très mineurs. Il y a très peu d'échanges commerciaux entre les deux pays. Mais je crois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la déconnexion entre les paroles de Trump, donc avec un style très particulier, très agressif, et les actes de Trump, puisque là, bon, si on regarde ses paroles, on peut se dire, tiens, il fait volte-face et finalement, il adopte une posture beaucoup moins amicale vis-à-vis de Moscou. Mais en termes d'actes, quand on voit ses actions de ces dernières semaines, en coupant l'aide à l'Ukraine, en arrêtant de partager des renseignements militaires avec les Ukrainiens, je crois quand même que la direction générale est assez claire et je crois que l'un des grands objectifs de Trump, c'est de signer un accord, alors je n'ose même pas dire de paix, mais signer un accord avec Vladimir Poutine. Je crains que Trump ait un intérêt très faible pour la question des détails de cet accord et des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc cet accord ne résoudra probablement pas le conflit, mais Trump pourra brandir cet accord et il est de notoriété publique qu'il pense que cela pourrait lui permettre d'avoir un prix Nobel. Je crois qu'en fait, quand on regarde la réalité et surtout son échange avec le président ukrainien Zelensky, il y a à peine une semaine, cet échange très houleux au sein du bureau ovale, je crois qu'en fait, une façon de résumer la façon de voir les choses de Trump, c'est il parlait de cartes justement avec Zelensky en lui disant
oui, qu'il n'avait aucune carte. Oui.
C'est ça, exactement. En fait, Trump, si vous avez des cartes, joue avec vous dans le but de vous humilier. Et si vous n'avez aucune carte, il vous humilie également. Et donc, au final, l'objectif est le même, toujours humilier son partenaire, sauf si c'est un homme très fort, donc comme Poutine et Xi Jinping, pour montrer qu'il est, selon son opinion, l'homme le plus fort dans la salle et que c'est lui qui commande.
Et pourquoi cette forme, encore une fois, d'affaiblissement de certains outils construits, encore une fois, depuis la Seconde Guerre mondiale, par des États-Unis exerçant, bien évidemment, leur ascendant, parfois excessif, sur le système occidental, en tout cas. Agathe.
Alors ça ne s'explique pas vraiment, en fait. Il paraît assez évident que les États-Unis, en tout cas Trump, l'administration Trump, se tire une balle dans le pied. Je dirais qu'en fait, il y a une forme de méconnaissance ou un désintérêt vis-à-vis des conséquences à long terme des politiques qui sont aujourd'hui menées par Trump. C'est-à-dire que on a l'impression que ce sont des politiques court-termistes. Je crois que ceux d'entre nous qui suivent les déclarations de Trump sur les questions commerciales, ça peut changer trois fois dans la journée. Je me souviens des premiers tarifs douaniers qui avaient été imposés contre la Chine, le Canada et le Mexique. En 24 heures, la situation avait totalement changé. Finalement, c'était suspendu pour le Canada et le Mexique. Et en fait, quand on regarde sur le long terme, il y a véritablement un risque qui ne semble pas être pris en compte par l'administration américaine d'affaiblissement du leadership américain et de la place proéminente des États-Unis aujourd'hui, à la fois sur la scène géopolitique et économique mondiale. On peut penser à un certain nombre d'exemples. Par exemple, les tensions commerciales aujourd'hui, mais pas que commerciales, technologiques également, puisqu'il y a aussi toutes ces questions sur les entreprises technologiques américaines qui ne voudraient pas suivre les lois européennes, mais être régulées par les lois américaines quand elles exercent sur le sol européen. Eh bien, ces tensions entre les États-Unis et l'Europe, évidemment, bénéficient à la Chine. On peut également penser à la fermeture de USAID, donc l'agence américaine en charge de l'aide au développement dans un certain nombre de pays. Un certain nombre de pays, notamment en Afrique subsaharienne, dépendaient de ces financements, par exemple pour la lutte contre le virus du sida. Eh bien, qu'est-ce que cela va faire? Cela va faire, en fait, que la Chine s'insère dans ces pays pour proposer des projets de développement, mais qui vont être liés aussi à des intérêts économiques, par exemple, pour l'extraction de ressources minérales. Et donc, quand on met tout bout à bout, effectivement, il y a une véritable déconnexion entre les actions de Trump à court terme. Donc oui, peut-être d'ailleurs à court terme que là, l'économie américaine, cela va aller. Mais à moyen terme et long terme, c'est certain qu'il y aura des problèmes avec une hausse de l'inflation. Et de même, sur la scène internationale, probablement un affaiblissement du leadership américain. Et après, également, se pose la question de tout ce que cela veut dire pour la Chine. La Chine va probablement redoubler d'efforts pour diminuer ses dépendances technologiques, financières, commerciales vis-à-vis des économies occidentales, au premier rang desquelles les États-Unis, pour se prémunir en fait de ces actions américaines.
Et une toute dernière question et une réponse très brève. Quand, selon vous, les Européens que nous sommes auront droit à l'annonce des droits de douane que souhaite nous infliger la Maison-Blanche?
Alors, c'est très difficile à savoir. C'est très difficile à savoir puisque Trump semble changer d'avis assez régulièrement. Mais je crois que début avril sera très probablement une date assez importante pour les hostilités entre les États-Unis et l'Union européenne.
Eh bien, merci. Merci à vous quatre. Merci à vous, Agathe de Marais. Vous avez signé plusieurs papiers sur la plateforme que je recommande, bien sûr, du Conseil européen des relations internationales. Et un papier très intéressant le mois dernier dans la revue américaine Foreign Policy. Florence Pisani, vous avez co-signé avec Émile Gagnat une série de textes sur la politique économique de Donald Trump. Ça a été publié sur le site de Candriam. François Schmitz, vous avez vous aussi bien sûr publié plusieurs papiers en anglais sur la coordination de la politique économique et commerciale chinoise, et vous avez signé en octobre dernier le rapport de l'Institut Mercator sur l'asymétrie entre le commerce européen, le commerce américain avec la Chine. Et je recommande enfin la note de Sébastien Jean sur le site de l'IFRI sur la façon dont les tensions géopolitiques remodèlent les relations commerciales. À la réalisation ce matin, bien sûr, Luc-Jean Reynaud, François Saint-Jour était à la technique, Laura Dutèche-Pérez et Patricia Miura de la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Nous sommes samedi, voici Marina Carrère d'En Cause et ses carnets de santé. Bon week-end.